ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 15 juin 2022, il fait chaud dans le Beaujolais et partout en France. On est dans des températures autour de 35 degrés, le ciel est partiellement couvert, on a quelques risques d'orage dans l'après-midi et la soirée. Dans notre émission, nous allons retrouver Nadjet Guidoum pour des conseils culinaires, Gabriel Caramana pour nous parler de plantes sauvages et enfin Geneviève et Héloïse qui nous parlent de femmes au destin exceptionnel. Avant tout ça, on va passer un moment avec nos invités du jour. Je suis très content de retrouver une voix qu'on connaît bien sur cette antenne, c'est Valérie Blé qui vient aujourd'hui en tant que chargée de communication. Elle est accompagnée du comédien Clément Morinière, cofondateur de la compagnie Théâtre en Pierre Dorée. Ils vont nous parler du festival Les Rencontres de Thésée qui aura lieu du vendredi 17 au dimanche 19 juin à Thésée dans quelques jours. Festival de théâtre qui investit le château de Rochebonne avec des spectacles en extérieur et qui met en avant le patrimoine. La programmation est bien remplie et surtout on découvre toutes sortes de bonnes idées, de partenariats autour de ces spectacles, des expositions, des moments d'échange, de discussion. On va parler de tout ça dans quelques minutes en détail. On commence d'abord notre émission en musique. On écoute Polo & Pan aujourd'hui avec un morceau qui s'appelle Artemis. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h14. Merci d'être avec nous. Sur Calade, c'est aussi le nom d'un spectacle qui sera joué samedi et dimanche à 11h30 au château de Rochebonne dans le cadre du festival Les Rencontres de Thésée. Ça tombe bien, c'est ce dont on parle aujourd'hui.
Ensemble sur Calade.
Allez, nos invités du jour dans Ensemble sur Calade font partie de la compagnie Théâtre en Pierre Dorée. Nous avons Clément Morinière, cofondateur de la compagnie.
Bonjour.
Et Valérie Blé, chargée de communication. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Mathieu.
Et bien parlons-en de cette compagnie Théâtre en Pierre Dorée. Comment est-ce que ça a commencé?
Alors, la compagnie Théâtre en Pierre Dorée, elle a vu le jour il y a presque 12 ans maintenant. À l'initiative de comédiens, donc il y a Amandine Blancard, Damien Gouy, donc, et moi-même, qui sommes à l'origine de la fondation. Pour être totalement complet, il faudra dire qu'il y avait Julien Gauthier aussi à la création de la compagnie. On était quatre. Et l'idée de cette compagnie, c'était de créer une compagnie qui se regroupe pas autour d'une personne, comme c'est parfois le cas, autour d'un metteur en scène, autour d'une d'un artiste, mais plutôt de conjuguer les efforts, de mettre en commun des envies et des élans artistiques qui se rejoignaient.
Le côté collectif d'artistes ou chacun
Ouais. Oui, non. Oui. Non, c'est pas tout à fait ça non plus. Okay. C'est quelque chose de nouveau. D'accord. Non, c'est quelque chose qui fait que plusieurs artistes, se rejoignant sur des points fondamentaux au niveau de l'artistique et aussi, j'allais dire, au niveau politique, parce que y a aussi notre façon d'imaginer le métier et notre intervention sur le territoire, se rejoignent. Et puis, on peut être à tour de rôle, porteur de projet, au gré de nos envies et des textes qui s'imposent. Et voilà. Donc certains d'entre nous écrivent, d'autres non. Certains d'entre nous mettent en scène, d'autres non. Et puis certains d'entre nous, enfin tous par contre, proposent des projets, des choses sur lesquelles on a envie de se lancer, quoi.
Oui, on peut dire que la force du collectif, justement, c'est cette intelligence commune pour partager des œuvres avec le public le plus large. Et donc principalement, voilà, ils sont vraiment très attachés, les trois artistes, sur le patrimoine de la langue française, quoi.
Ouais. Et parler un petit peu à tout le monde, il y a des spectacles peut-être qui s'adressent plus à un public adulte et d'autres à un public jeune.
Ouais, on a à cœur, alors en ce qui concerne les rencontres de Thésée, pour le coup, on a dès le début eu à cœur de proposer des formats jeune public, ouais. Des formats plus, alors cette année peut-être un peu moins, mais d'autres années on avait une part de la programmation qui était un petit peu orientée vers la poésie et puis des textes qui sont plutôt classiques du répertoire et puis aussi des textes contemporains avec des commandes d'écriture qui ont lieu régulièrement et avec des auteurs contemporains, des autrices contemporaines. Mmh. Oui, on essaye de pas se réduire à un seul champ. Non pas pour essayer de faire feu de tout bois, ouais. Mais plutôt pour pas réduire notre entrée dans le théâtre à un seul style, ouais. Parce que c'est trop varié.
Pas qu'on vous étiquette aussi la compagnie Théâtre en Pierre d'Oreille, ils font ça.
Ouais, parce que aussi nous on l'est pas. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait on vient tous d'une même formation plus ou moins, en tout cas d'un même courant qui fait que on se base sur l'art de la langue. Et l'art de la langue, il est très présent dans le théâtre du répertoire, évidemment. Mais il est aussi, et c'est ce qu'on essaie de défendre, présent dans le théâtre contemporain. Et c'est aussi une position, pour le coup, politique, comme je disais tout à l'heure, un peu. En tout cas, d'idéologie, on tient à défendre une certaine langue française, notamment, qui fait que on va aller peut-être se rapprocher de certains auteurs et autrices contemporains et contemporaines pour faire perdurer une certaine tenue de la langue, on va dire.
Et j'ai vu que la compagnie, j'ai trouvé la date de 2012 pour les débuts.
Ouais.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
En 10 ans, est-ce que les premiers spectacles ils vivent encore? Qu'est-ce qu'ils sont devenus, les premiers spectacles que vous avez joués?
Alors, il y a des spectacles qu'on a créés à l'origine qui existent encore, ouais. Et qui tournent encore, ouais. Et qui vivent, donc. Et puis, il y a des spectacles, et je pense notamment aux spectacles qui étaient plus développés, avec plus d'acteurs, avec plus de moyens, qu'il est plus difficile de faire tourner. Ouais. Et pour le coup, parfois, il y a des spectacles dont je pense la vie a eu lieu.
Voilà. Et d'accord.
Et on peut redire le pari au départ des rencontres de Thésée, hein, puisque c'est le nom du festival de théâtre. C'est vraiment depuis 2012 d'allier théâtre, patrimoine et habitants. Ouais. Donc c'est vraiment de profiter du cadre remarquable du château de Rochebonne et de ses abords que la municipalité met à la disposition de la compagnie. Hein, c'est vraiment un partenariat du départ pour investir la cour, l'esplanade et tous les abords. Et le premier soir, on va en parler peut-être tout à l'heure dans le détail de la programmation, la place du village, ouais. Avec un spectacle gratuit offert à la population. Ouais. Donc c'est vraiment la mission à travers ces créations et ces compagnies invitées sur ces trois jours, amener le théâtre de qualité avec que des compagnies professionnelles en milieu rural, en proximité. Avec les habitants du Beaujolais.
Et puis pour juste répondre à ta question, quasiment tous nos spectacles qu'on a dans le répertoire du Théâtre Empire Doré ont vu le jour aux rencontres de Thésée. D'accord. Et ça, c'est un truc qui fait partie aussi de notre programmation. On en parlait tout à l'heure, au-delà des spectacles proposés aux plus jeunes. On a aussi à cœur de faire rentrer le public dans le processus de création de nos spectacles. Donc on va lui présenter par exemple une édition où on va avoir la lecture ou la mise en lecture d'un texte. Et puis l'année d'après, on va lui montrer peut-être une étape de travail et puis on va arriver jusqu'au spectacle accompli.
D'accord.
Et c'est une façon pour nous d'intégrer notre public dans de rendre l'art théâtral plus familier aussi au public. Voilà, ils vont voir des comédiens qui sont en train d'apprendre leur texte, ils vont voir des comédiens qui savent pas encore comment tout à fait ça va être mis en scène. Et ça nous donne ça nous permet en tout cas d'être sur la voie de la proximité avec les gens qu'on essaye de développer pendant les rencontres de Thésée.
Donc il y a, si j'ai bien compris, ce côté patrimoine, on va pas mal se balader dans les petits coins de Thésée, au château.
Oui, alors on investit surtout le château de Rochebonne, et puis on a petit à petit, les années passant, grappillé du terrain, j'ai envie
d'accord.
de dire. Donc on a quelques spots comme ça dans les vignes qui permettent d'avoir des beaux endroits de représentation et puis de plonger le public aussi dans cet univers du patrimoine de la vigne aussi, et puis de Thésée.
Il faut que ça serve le propos aussi. Donc là, justement, Clément, c'est bien qu'il soit là aujourd'hui, il travaille justement sur un texte, Terre et toi, qui est justement en étape de travail et qui sera en mise en lecture dimanche à 14h30. Et donc on est au pied des vignes et justement ça parle, c'est une fiction, mais ça s'ancre sur le territoire des Pierres Dorées puisque ça parle d'une histoire d'un couple qui, voilà, à partir de récits et de témoignages collectés par l'association Histoire et Patrimoine à Thésée, a réfléchi ou collecté sur les outils viticoles et sur comment améliorer le travail de la vigne.
Et toutes nos propositions aux rencontres de Thésée sont en plein air.
D'accord,
et ça, mine de rien, on pourrait se dire, évidemment, au mois de juin, il fait beau, on va dehors. Mais c'est pas seulement ça.
Prise de risque, quand même, non ?
Ouais, il y a de la prise de risque parce qu'effectivement, on sort de ce petit cocon qu'est la salle de théâtre, qui nous sécurise beaucoup et puis qu'on contrôle, qu'on maîtrise plus. Mais la démarche aussi, c'est de détendre un petit peu les choses. C'est-à-dire de pas convoquer le public à une forme de rigueur ou de.
C'est très ritualisé.
Le théâtre bien sûr.
Voilà.
C'est vrai.
Et donc, quand on arrive, on se dit attention. Est-ce que je vais pas faire n'importe quoi dans le public ? Est-ce que je peux applaudir à ce moment-là ?
Voilà.
J'ai le droit de rire fort.
Voilà.
Si je m'amuse.
Exactement. Et le fait d'être en plein air décontracte un peu tout ça. On oublie un petit peu justement ce côté rituel et on partage ensemble. Par exemple, il y a beaucoup de propositions en pleine journée qui sont pas éclairées, évidemment. Donc c'est les propositions le soir ou au début de la nuit qui sur lesquelles l'éclairage arrive. Et du coup, on est sur un théâtre, j'ai envie de dire, une représentation brute. On a très peu d'effets. Alors parfois on peut avoir un peu de son qui vient et tout ça, mais et encore une fois, ça nous amène à développer un théâtre plus en proximité avec les gens. On fait vraiment appel à leur imaginaire en faisant ça, parce qu'on est sur un décor naturel. Parfois on est sur des décors qui peuvent pas se développer autant que dans une salle prévue pour ça, et du coup on mise vraiment sur l'imaginaire des gens pour les embarquer dans nos histoires.
Vous parliez tout à l'heure de montrer l'envers du décor en montrant des spectacles en cours de création. Je crois qu'il y a une autre partie transmission dans ce festival. Il y a eu un stage avec une école primaire où...
Oui, ça fait partie des choses qu'on a mis en place année après année à Thésée et puis sur tout le territoire rhône-alpin, j'ai envie de dire, et surtout le territoire des Pierres Dorées. C'est qu'on essaye de constamment réservé dans notre saison une part dédiée à la transmission et à la pédagogie. Donc ça passe par effectivement des stages, on va dire des stages d'initiation, des stages amateurs proposés à la salle Cherpin à Thésée. Ça passe aussi par des interventions de nous tous dans différents établissements scolaires. Là, je viens de passer une journée, par exemple, à l'école de Thésée avec les CE1, CE2 et CM1, CM2, avec lesquels on a travaillé autour de la figure d'Artémis, puisque ça fait partie des spectacles qui sont proposés lors des rencontres. On a à cœur de se tourner vers les jeunes beaucoup. Et puis, cette édition particulièrement, puisque comme tu le soulevais, Mathieu, il y a deux moments de restitution qui sont dédiés aux élèves, donc à ces élèves de l'école de Thésée dont je parlais. Il y a un moment de restitution offert aussi aux élèves d'art en scène de Lyon, qui est une école de théâtre à Lyon, qui ont travaillé avec Damien Gouy sur l'œuvre de Molière. Et puis, il y a...
un peu une nouveauté, ouais, cette année, on peut dire, avec tu pensais à l'école Émile Cole,
oui, voilà,
l'école d'illustrateurs, ouais. Voilà, donc là on s'est, l'illustration de l'affiche 2022 a été réalisée par une jeune élève, Astrid Billet, et puis oui, tout à fait, donc il y a une petite, un petit concours un peu entre eux à la suite d'un travail à l'initiative d'un des professeurs de l'école Émile Cole, qui les a invités aussi à travailler sur l'œuvre de Molière à partir de l'écoute audio d'extrait du diptyque que joue la compagnie Théâtre Empire Doré, Mariage Forcé. Donc ils étaient en immersion pendant 8 heures à la fois pour écouter et dessiner et produire, avec une autre source d'inspiration que le support visuel traditionnel qui était là, le son. Et Vincent Arnaud, qui a réalisé l'affiche à partir de l'illustration, qui est également un comédien ami de la troupe.
Oui, c'est pas lui qui a créé le visuel, hein. Le visuel a bien été créé par une jeune artiste de l'école Émile Cole.
Voilà, c'est après, ouais, emparé du projet. Et donc, il propose cette année, ça c'est une nouveauté, d'aller avec 10 grands formats d'affiches d'élèves, donc de travaux d'élèves, hein, c'est pas tout à fait abouti, c'était vraiment dans un cadre particulier, d'aller cheminer comme ça dans Thésée, depuis la place du village jusqu'à la vieille église, jusqu'au château de Rochebonne, avec une centaine d'œuvres de ces élèves.
D'accord.
Donc, ça c'est des partenariats qui se mettent en place petit à petit. Pour boucler peut-être aussi sur la transmission, donc Clément est donc en atelier là toute la semaine à l'école primaire, mais l'équipe qui a créé, qui est en cours de création et qui sera en sortie de résidence autour d'Artémis, donc la déesse nature, fait aussi des rencontres avec ses élèves, et notamment dans le cadre de BIP, les brigades d'intervention poétique, donc tous les matins, Amandine Blancard et ces musiciennes, comédiennes, metteuses en scène rendent visite dans chaque classe de l'école primaire.
D'accord.
Pour voilà, là aussi maturer ce qu'est une création. Il faut savoir que Artémis est un spectacle donc, qui est tout nouveau, qui aura la primeur aux rencontres et qui sera joué samedi et dimanche matin à 11h30 sur réservation, parce qu'il y a une petite jauge et c'est déjà très prisé, et que c'est une adaptation théâtrale à partir des feuilletons d'Artémis, du feuilleton d'Artémis de Muriel Zach, qui est une autrice jeunesse connue en Calade, qui est sur Paris maintenant. Donc voilà, tout fait un peu sens sur le territoire aussi.
Très bien. On n'a pas évoqué, il nous reste peu de temps, les rencontres de Thésée. Vous rencontrez d'autres compagnies?
Oui, alors, les rencontres de Thésée, elles portent bien leur nom. C'est évidemment l'occasion pour nous, comme je disais tout à l'heure, d'initier des créations et de rencontrer notre public sur des nouveaux projets au sein de la compagnie Théâtre Empire Doré. Mais c'est aussi et surtout un moment d'invitation pour nous, dirigé vers les compagnies du territoire, vers des compagnies qu'on a croisées, vers des compagnies qu'on connaît pas forcément si bien, mais dont le travail nous paraît rentrer dans notre ligne artistique. Donc évidemment, c'est important pour nous de faire profiter au public de Thésée et des environs de tout ce qu'on a rencontré ailleurs aussi.
Et inviter d'autres artistes.
Donc on a la douce compagnie qui ouvre le bal le vendredi soir à 19h sur la place publique avec les quatre mousquetaires épopée pop d'Alexandre Dumas, mais complètement revisité.
Ouais, je savais pas que c'était pop. Donc
voilà, c'est une façon biomane. Hein, faut s'attendre à du déjanté.
Une entrée dirigée vers la joie, ouais.
Ok.
Et puis on a la compagnie Superlune avec Joséphine Chaffin, autrice, qui nous propose alors Tandem Radio Imaginaire. Donc c'est bien pour les auditeurs de Radio Calais.
Ouais.
Donc c'est une radio, voilà, où on invite des couples d'artistes et où on sait pas, voilà, de qui l'homme, la femme finalement inspire l'autre. Et voilà, et dans ce trio.
Donc c'est une émission de radio imaginaire.
C'est ça, ouais. C'est ça. Une émission de radio fictive où des maris ou compagnons de grandes autrices ou de grands artistes viennent raconter leur quotidien.
Ah, c'est derrière chaque grand homme, il y a une femme.
Exactement.
Mais,
c'est à l'inverse.
C'est derrière chaque grande femme.
Et enfin, toujours un peu autour de Joséphine Chaffin, qui est une autrice très, très en vue. Elle est aussi avec Juliette Rizou à la mise mise en scène de Premier Soleil, enquête sur la mort de Roméo et Juliette. Donc ça, c'est en clôture de festival à 17h le dimanche. Mmh. Voilà, et là, c'est aussi revisité, c'est du thriller.
Excellent.
Voilà. Mmh.
Okay.
Avec la bande à mandrin.
Voilà. Puisqu'on est sur la programmation, il y a... Bon, et puis en plus, c'est moi qui m'y suis collé, donc j'ai à cœur d'en parler encore plus. On a enfin, après tant de temps, réussi à initier un projet d'écriture, ouais, sur le territoire. Et on a évoqué tout à l'heure l'association Mémoire et Histoire de Thésée qui a fait un gros travail de collecte de témoignages d'anciennes personnes qui ont traversé tout le XXe siècle à Thésée. Et on a enfin réussi à initier un projet d'écriture sur ça pour parler aux gens d'ici, de ce qui s'est passé avant, et pour aussi transmettre, toujours dans cette volonté de transmission, aux générations futures, en regardant un petit peu dans le rétroviseur pour voir un peu où on va. Et je suis assez content d'avoir, sinon réussi, en tout cas,
amorcé,
à initier ça. Ouais, voilà.
Et ça, en plus, on a la chance, Bertrand Lamure nous accueille à la librairie des Marais, donc vendredi à 12h30 pour la petite pause culturelle, donc Clément Morinière et Alain Fabiche de l'association, pour voilà, avoir une rencontre encore plus de proximité, ouais, autour de ce projet Terre et Toi, dont Clément est l'auteur.
Très bien, excellent. Je reviens à la programmation du festival. On a évoqué donc la soirée de vendredi, le samedi. On a déjà parlé de Artemis Tandem. On a parlé de Mariage Forcé de Molière qui a inspiré l'affiche,
voilà,
si j'ai bien compris.
Tout à fait.
Le dimanche Artemis, Terre et Toi, Premier Soleil. On a tout évoqué en fait, on n'a rien oublié.
Si on a oublié un truc, on a oublié la table ronde.
Alors, qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, dans toutes les rencontres de Thésée, il y a les spectacles et puis il y a deux autres choses. L'exposition, dont on a parlé, ouais, avec les élèves d'Émile Cole, et la table ronde qu'on essaye de faire chaque année. Et chaque année, on intervient, on propose de réunir le public autour d'une table pour parler d'un des métiers du théâtre. Auteur cette année. Les années passées, on a fait la scénographie. Donc on a invité des scénographes à parler de leur métier, la lumière, le son, la mise en scène, ouais, les comédiens évidemment. Et puis on essaye comme ça de créer un échange, c'est vraiment un temps d'échange, toujours dans cette optique de faire rentrer les gens dans la réalité de l'élaboration théâtrale qui est la nôtre au quotidien. Voilà.
Et c'est ouvert à tous?
Ouvert à tous, bien sûr.
Très bien.
D'ailleurs, pour tous les spectacles, voilà, c'est ouvert avec un accès à prix libre. Ça aussi, c'est une volonté forte de la compagnie Théâtre Empire Doré de rendre ces spectacles de théâtre le plus accessible possible.
Voilà. Il faut nous montrer qu'on a raison. C'est-à-dire à ça.
Très bien. Et il y a un système de réservation, il y a un numéro de
oui,
téléphone
évidemment.
On donne maintenant ou pas?
Je te laisse faire, Valérie, tu connais?
Voilà, théâtrepierredoré.fr pour le site, et ça vous renvoie sur le programme 2022 vers la billetterie à l'OASO, où vous pouvez quand même réserver et mentionner votre tarif libre et en conscience. Mmh. Et un téléphone 06 52 76 06 22.
Et n'hésitez pas à laisser un message avec votre réservation, car nous sommes très occupés ces jours-ci.
Très bien, je veux bien vous croire. Je mets toutes ces informations là sur le site internet de la radio avec la réécoute de notre émission. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci Mathieu.
Merci.
Valérie, Clément, d'être venu nous en parler aujourd'hui. À tout bientôt.
À l'année prochaine.
Ensemble sur Calade.
Allez, on rappelle que le festival des rencontres de Thésée, c'est bien évidemment ce week-end du 17 au 19 juin à Thésée, au château de Rochebonne. Un peu de musique sur Calade avant de passer à la suite. On écoute Pomme avec Soleil, Soleil.
Ne demandez pas pourquoi, quand vient l'hiver et le grand froid, on voudrait tous mourir. Comme si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras, on voudrait tous partir. Retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil qui nous hante. Soleil. regardez jamais en bas où le méchant loup vous mangera. Vous perdrez l'équilibre. On va tous compter jusqu'à trois et faire une chaîne avec nos bras sur la route du sud. Retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil qui nous hante. Oh, reviens, soleil, soleil. Prochaine fois que vient la neige et le fracas, on ne va pas tous mourir. Entre les braises on marchera et la nuit noire nous embrassera. On pourra tous partir. On pourra tous partir.
C'était Soleil, Soleil sur Clad, un morceau de la chanteuse Pomme.
Oh, vous n'allez pas manger des choux farcis après des tripes.
Ensemble sur Calade.
C'est pas bien bon ça.
Alimentation, santé.
Allez, c'est parti, on va faire un petit tour en cuisine et pour ça, on retrouve tout de suite Nadjet Guidoum. Bonjour.
Bonjour, bonjour Mathieu.
Vous allez bien en forme?
mais oui, et vous?
Très bien. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons de comfort food.
Oula.
Et la comfort food, eh bien, c'est la cuisine qui réconforte et qui, parfois et même souvent, nous remonte le moral. On est très loin, là, de la cuisine des grands chefs. On part souvent de plats faciles, simple, gourmand, qui nous procure un maximum de bonheur et de bien-être dès la première bouchée.
D'accord, c'est ça la comfort food.
Oui.
Et est-ce que c'est les mêmes plats pour tout le monde? Moi, ça me fait penser, la définition que vous avez donnée, ça me fait penser aux recettes de grand-mère.
Eh bien, oui, ça peut être une recette de grand-mère, mais en fait, Mathieu, on est là dans l'émotion. D'accord. Chacun a son aliment de réconfort.
C'est ça, ouais.
Oui. C'est par exemple, eh bien souvent, vous voyez, en hiver, on a besoin d'une cuisine qui réconforte, ou dans des moments où on ne se sent pas très bien, après un coup dur, ou quand on a tout simplement envie de manger un plat qui nous rappelle notre enfance.
Ouais.
Eh bien, c'est ça, la comfort food.
Très bien. Pour moi, ce sera le clafoutis de ma maman.
Oui. Et oui, ces aliments sont réconfortants, hein, sont très souvent associés à une personne, à un souvenir, à une odeur. Voilà, une odeur en particulier. Ben vous, ça vous rappelle votre maman.
Eh ben ouais, l'été.
L'été, bon, mais oui. Voilà. Et la comfort food, en fait, c'est un peu le doudou version culinaresque. Voilà,
très bien.
C'est ça.
Ok.
Bien, vous voyez, la mémoire est surtout rattachée, comme je vous disais, à l'odorat.
Ouais.
Bien avant la vue, bien avant le goût, comment vous dire, je trouve que l'odorat, ça a un sens qui est chargé d'émotions. Enfin, je sais pas si.
Ah, mais il y a que la cuisine et effectivement l'odeur d'un plat qui peut nous faire remonter le temps et nous rappeler des fois des moments très précis. Juste avec un plat, on arrive à se rappeler, se revoir dans la cuisine avec toute la famille.
Mais oui,
comme ça.
C'est ça.
Effectivement, oui, c'est très très fort. Comprendre mieux ce que c'est que la comfort food en parlant de ça. Ouais.
Et puis en mangeant un aliment qui nous réconforte et qui nous rassure en fait quelque part, il y a un regain d'émotions positives. Je ne sais pas si ça rend heureux quelque part.
Bien sûr, bien entendu.
Ça sent heureux et puis tel un vase communicant, les émotions négatives disparaissent et on a voilà ce regain de plaisir, de bonheur en fait. Et je trouve que ça a vraiment un rôle majeur sur l'humeur, cette comfort food.
S'il ne faut pas oublier que manger, c'est aussi un plaisir et on nous rappelle beaucoup qu'il faut manger équilibré, etc. etc.
Oui,
manger équilibré, faire attention, mais se faire plaisir quand même, t'es bon.
Et bien, mais tout à fait, cette tendance nous rappelle qu'il est important de prendre du plaisir de manger, sans compter les calories, sans se culpabiliser, et puis de faire un écart de temps en temps, et bien c'est pas la fin du monde.
Très Très bien.
Souvent, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, la comfort food a synonyme de malbouffe. Et ouais. Pas forcément, moi j'ai envie de vous dire.
Oui, moi je pense moi à un gros hamburger plein de frites.
Oui, ça fait du bien.
Ouais, mais, c'est pas pareil.
Mais en fait, moi je vous dirais plutôt que la comfort food, on est plutôt sur des aliments, des produits simples, faits maison et savoureux.
Ouais,
mais... Moi je le vois plutôt comme ça. C'est un peu la Madeleine de Proust.
Bah ouais, c'est le principe, c'est ça.
Moi, ma comfort food, Mathieu, c'est la fameuse purée avec le puits au milieu et la sauce.
Et la sauce qu'on fait couler.
Voilà, ouais, c'est cool. Ça.
C'est pas mal aussi.
Vous voyez, vous, c'est votre clafoutis, ouais. Moi, c'est ma purée maison avec la sauce et le puits au milieu.
Au moins, voilà. Vous pouvez en manger toute l'année.
Mais oui, oui, bien sûr. Mais ça peut être aussi des coquillettes, les coquillettes de grand-mère. Ouais. Ça peut être une mousse au chocolat.
Ah, des morceaux de jambon dedans.
Mais oui, c'est bon.
Merci beaucoup, Nadjet. Voilà. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Ensemble sur Calade.
Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région. Apprenez à les reconnaître et à les cuisiner avec Gabrielle Caramana, ethnobotaniste et fondatrice de l'association amplepuisienne Ampliflore. Tout de suite, découverte sauvage au fil des saisons.
Bonjour, je vous parle aujourd'hui d'une plante qui abondait en été dans les champs de céréales il y a seulement une quarantaine d'années. C'est le bleuet. On le surnomme blavette, barbeau ou encore casse-lunette. Son nom scientifique est Cyanus segetum ou Centaurea cyanus. Le mot cyanus vient du latin cyanus qui signifie bleu foncé. Segetum ou segetalis du latin signifie qui croît parmi les céréales. Le bleuet est classé dans la famille des astéracées, anciennement nommée composée. C'est la plus grande famille pour le nombre d'espèces, près de 22 750 dans le monde, et la seconde pour le nombre d'individus. De nombreux légumes potagers ou plantes sauvages connues en font partie. L'artichaut, la laitue ou le salsifis pour les cultiver. Et pour les sauvages, les pissenlits, les camomilles, les chardons par exemple. C'est une plante annuelle ou bisannuelle. Les tiges grêles et anguleuses des bleuets mesurent de 30 à 60 cm de haut. Elles sont, ainsi que les feuilles, légèrement duveteuses. Cette fleur, que l'on connaît si bien pour sa beauté délicate, est en fait un capitule regroupant au centre des fleurs violacées en forme de tube et en périphérie des fleurs en languette que l'on nomme ligules en forme d'éventail d'un bleu céleste. Suivant l'altitude, les bleuets fleurissent de juin à août. Je vous invite à les regarder de plus près et peut-être même à la loupe pour apprécier les plus petits détails. Hildegard de Belgen, au XVIIe siècle, fut l'une des premières à mentionner les vertus du bleuet. Ses fleurs possèdent surtout des propriétés calmantes, efficaces contre les affections inflammatoires des yeux. Elles sont aussi légèrement diurétiques et toniques. L'infusion ou l'hydrodat de fleurs sont bénéfiques pour la peau grâce à leurs propriétés adoucissantes, astringentes et anti-inflammatoires. Du côté alimentaire, les fleurs de bleuet étaient utilisées en Pologne pour colorer le vinaigre, et ce jusqu'au XVIIIe siècle. Jusque dans les années 50, on en préparait aussi une sorte de vin avec de l'eau et du sucre. Aujourd'hui, laissons cette plante sauvage fleurir et se reproduire pour en avoir à nouveau en abondance un jour et les utiliser en décor comestible de nos salades sauvages. Voilà, chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite de bonnes cueillettes.
C'était Découverte sauvage au fil des saisons avec Ampliflore pour partir à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région.
Allez, avoir entendu parler de bleuet, ça m'a fait penser à la couleur bleue, ça m'a fait penser au super titre de Massilia Sound System. Mais quel est bleu ?
Oh, la chose qui vient est spécialement dédicacée à tous ceux qui aiment la Méditerranée et à ceux qui adorent s'y plonger comme nous. Oh, que c'est bon, cousin ! Mais quel est bleu ? Mais quel est belle, mais quel est belle, mais quel est bleu ? Oh, moi, ça me rend joyeux, mais quel est bleu ?
Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Comme moi ça me rend heureux, elle est pleine de poissons, elle est pleine de poissons. Des petits, des gros, des fins, des longs et même des tourons. Certains vivent près du bord et d'autres vivent dans le fond. Certains sont sédentaires et d'autres changent d'horizon. Ils n'ont pas grand chose à faire, ils ne se font pas de mourons. Ils ont leurs identités, moulons de style et de façon. Les petits mangent les verres et les gros les dévoreront. Mais la chaîne alimentaire, il faut que nous la respections. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh moi ça me rend heureux, elle est pleine de marins, elle est pleine de marins. Tous les gens au Fort Saint-Jean leur font un signe de la main. Ils s'en vont pour l'Afrique, ils s'en vont pour l'Asie, ils viennent des Amériques, ils viennent de l'Océanie. Ils emportent un bout de Marseille et ramènent un bout d'ailleurs. Des souvenirs à l'appel et le récit dure des heures. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh moi ça me rend heureux, elle est pleine de jolies filles, elle est pleine de jolies filles. Aussitôt qu'arrive l'été, aussitôt que le soleil brille. Bikini, monokini, des nudes de corps des demoiselles. Sous le ciel de Marseille, elles apparaissent encore plus belles. Les garçons tapageurs sont tous de méchants brancheurs. Nos patopes et nos blasters, lunettes noires de rigueur. Ils font des matchs de volée et puis des concours de plongée. En bombe du plus haut des rochers. Ils se font cajoleurs, ils se font enjôleurs. Et pour apaiser leurs émois, se jettent à l'eau tous les quarts d'heure. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh moi ça me rend heureux, elle est pleine de pêcheurs. Elle est pleine de pêcheurs. Il y a les professionnels et il y a les amateurs. Les poux, pour eux la pêche est un dur labeur. Mais pour nous autres les pescadous, la pêche est un vrai bonheur. Si tu veux prendre du sard, il faudra te coucher tard. Mais si tu te lèves tôt, tu peux attraper du pajot. Mais très patient, il faudra être patient. Précis, organisé et toujours être en mouvement. Avoir la meilleure tactique et l'employer au bon moment. Trouver ta position en tenant compte des courants. Quant aux chasseurs sous-marins qui ne craignent que les murennes, il reste cool et serein, il attend que sa proie vienne. Hey, à la cachon il est, à la cachon respiration, à la cachon il est, à la cachon fusil à pompe, à la cachon il est, à la cachon des gros poissons. Il porte beaucoup de plomb, possède de gros poumons. Il se prend pour le héros d'un film de Luc Besson. Les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les boum. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh moi ça me rend heureux, elle est pleine de jolis coins, elle est pleine de jolis coins. L'hiver on s'y promène et l'été on y prend le bain. Tous les gens des quartiers de toutes les communautés, sur un bout de rocher ou sur le sable surchauffé. Sans façon, sans manière et sans arrière-pensée, viennent ensemble partager le soleil et c'est bien fait. Quand je veux être cool, moi je m'en vais au Frioul. Quand je veux voir plein de gens, je m'en vais au Catalan. Quand le temps se fait mauvais, je vais à l'abricotier. Et si je vais au bout du monde, hey, et si je vais au bout du monde, ça, et si je vais au bout du monde, tu sais pas. Et si je vais au bout du monde, je m'arrête à Carolon. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh moi ça me rend heureux et ça fait pas, 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 pas de marina. Ici c'est pas la Riviera ni la Costa Brava, tu sais. Pas, 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 pas de marina. Oh non monsieur Godin, il ne faut pas bétonner ça. Pas, 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 pas de marina. Ici c'est pas la Riviera ni la Costa Brava, tu dis. Pas, 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 pas de marina. Oh oui, ragam, on finit, faudra empêcher tout ça.
Le Maslia Sound System, un petit peu de Marseille dans le Beaujolais, ça fait pas de mal. Quel est bleu, c'est ce qu'il nous chantait. Il est l'heure de la rubrique Histoire de femmes et femmes d'histoire.
Ensemble sur Calade.
Histoire de femmes, femmes d'histoire.
Et pour ça, on retrouve le duo Geneviève et Héloïse. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour amis de la Calade.
Bon Geneviève, de qui vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui je vais vous parler de quelqu'un qui n'est pas une illustre inconnue. Ouais. Je vais vous parler de Néfertiti.
Très bien, voilà. Néfertiti.
Donc c'est... une grande pharaone de l'Égypte antique. 1370-1333 avant Jésus-Christ pour les dates. Hein. Mmh. Ça on situe un peu le cadre. Est-ce que tu sais sur Néfertiti ? Qu'est-ce qu'on dit, Héloïse ?
Bah, que son mari s'appelait Akhenaton.
Ah oui, c'est ça, Akhenaton. Et il s'est toujours appelé Akhenaton ?
Non.
Non, en fait, c'est un couple qui est resté célèbre, parce que du coup, au départ, Amenophis IV,
ouais.
Qui était le fils d'un très très grand pharaon qui a régné plus de 40 ans en Égypte et qui a du coup installé le pays dans la prospérité. Et bien du coup, Amenophis IV, quand il arrive au pouvoir, il est jeune, hein, il a 12 ans, garçon.
Ah ouais.
Ouais, quand même. Hein. Mmh. Sa fille, pardon, son épouse a 17 ans. Donc ce jeune couple prend le pouvoir et du coup, en fait, il a envie de tout chambouler.
Ouais.
Voilà, donc c'est fini le règne polythéiste, on passe au règne monothéiste autour d'Aton. Et on pense qu'en fait Néfertiti, qui était une jeune fille très éduquée, très instruite, très intelligente, eh bien elle va beaucoup l'inspirer en fait dans la mise en place de cette religion monothéiste, qui est la première grande expérience monothéiste de toute l'histoire de l'humanité. Et en fait, elle va apparaître comme étant, du coup, une vraie figure d'autorité, une grande prêtresse dans ce culte d'Aton. Et on va même écrire, alors tous les égyptologues ne sont pas d'accord là-dessus, que c'est peut-être même d'ailleurs le premier pharaon, puisque à la fin de sa vie, du coup, Akhenaton, du coup, l'aurait nommé co-pharaon et qu'elle aurait régné en attendant, du coup, que son fils puisse prendre le pouvoir, puisqu'il était trop jeune au moment où Akhenaton meurt.
Pharaon, pour moi, c'était exclusivement des hommes.
Et oui. Et d'ailleurs, au moment où elle va être... Alors, encore une fois, on est dans la supposition, hein, mais au moment où elle va être nommée Pharaon, elle va changer de nom pour avoir un nom masculin. Parce qu'en fait, ouais, c'est super intéressant comme histoire, parce que du coup, en fait, il va y avoir un grand changement dans l'Égypte, qui n'est pas très populaire. Parce que les gens, ils sont quand même très attachés à leur dieu, et qu'on leur dise du jour au lendemain, finalement, il n'y a plus qu'un seul dieu, ça ne leur va pas bien.
Oui, puis c'est bizarre.
Hein, ça fait un peu bizarre. Hein. Ouais. T'es d'accord, Héloïse ? C'est un peu bizarre.
C'est bizarre, oui.
Oui, voilà. Et donc, pour que ça soit plus populaire, eh bien, ils vont travailler sur l'image du pharaon et de la pharaonne.
Et c'est lui qui devient le dieu. Enfin, c'est le pharaon, c'était un dieu sur Terre, il me semble.
C'était un dieu, ouais. Exactement. Mais là, il devient, en fait... Le principal prêtre de ce culte à Aton, au dieu soleil unique. Et donc, la prêtresse devient donc Néfertiti. Mais ils vont tous les deux, dans la manière dont ils sont représentés, avoir à la fois des traits masculins et des traits féminins, parce que le pharaon doit être montré comme étant à la fois le père et la mère de tous les Égyptiens. Et ouais. Même chose pour Néfertiti.
D'accord.
Et Néfertiti, elle est morte à quel âge ?
Alors, Néfertiti, ben, tu vois, Héloïse, je suis désolée, j'ai pas de réponse très précise à te donner. On sait pas bien, en fait. Il y a des gens qui pensent qu'elle a été éloignée du pouvoir parce qu'elle prenait trop d'importance à la cour et qu'elle aurait disparu, en fait. On n'a jamais retrouvé sa tombe. On suppose qu'elle a été retrouvée dans une cache et on a intitulé cette momie The Young Lady, et qui est effectivement très belle, mais qui n'a pas été retrouvée en très bon état. Donc il y a des datations qui pourraient laisser supposer que c'est elle, mais on n'en est pas sûr à 100%.
Mmh. Et elle a eu des enfants, Néfertiti ?
Ah oui, elle a eu 4 filles.
Pas de garçons ?
Et voilà, et là t'as tout compris.
Ça, pas de garçons.
Pas de garçons, elle est répudiée ?
Elle n'a pas été répudiée parce que les pharaons avaient plusieurs femmes, mais par contre, l'une de ses filles va épouser
le pharaon.
Alors, le futur pharaon, qui va être du coup son demi-frère, puisque du coup Akhenaton va avoir d'autres enfants. Mmh. Et du coup, Toutankhamon, hein, quand même, qui est pour le coup extrêmement connu, ben, Toutankhamon en fait était à la fois le demi-frère de cet enfant et son épouse. Et malheureusement, la génétique les a rattrapés, puisqu'ils ont eu tous les deux des difformités physiques très importantes. Et on pense d'ailleurs qu'ils sont probablement morts de ces...
Ouais, de ces difformités.
De ces difformités, ouais.
Un peu Game of Thrones, hein, quand même. J'imagine
ouais.
Ouais.
À cette époque, est-ce que tu penses qu'il y a des descendants de Néfertiti ?
Encore aujourd'hui ?
Ah oui, sûrement.
Probablement. On est à quelle époque, justement ? C'était il y a des milliers et des milliers d'années.
Ouais. On est en 1370 avant Jésus-Christ pour sa date de naissance.
Il y a plus de 3000 ans et on arrive quand même à savoir des histoires qui se sont passées il y a 3000 ans.
Et alors, si je puis me permettre, il y a quand même une petite histoire qui explique que Néfertiti soit aussi connue. C'est parce qu'en fait, en 1912, on a retrouvé un de ses bustes.
D'accord.
Et en fait, ce buste, il est d'une beauté splendide, sublime. Il est encore en très bon état. Il y a encore tous les pigments de peinture qui sont présents et qui, évidemment, montrent sa beauté. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'en 1912, en fait, il va y avoir toute une... une petite aventure autour de ce buste qui arrive à Berlin, puisque l'archéologue est allemand, alors qu'il aurait dû rester en Égypte. Mais pour autant, les Allemands vont montrer le buste comme étant un trésor d'archéologie, etc.
Ouais.
Et quelques années plus tard, figurez-vous qu'un petit homme brun, Hitler, va du coup découvrir ce buste et il va en faire vraiment l'égérie, en quelque sorte, hein, qui magnifiait tous les canons de beauté ariens de l'époque. C'est fou, hein?
Ah ouais, c'est un peu loin du stéréotype arien, pourtant.
Elle était extrêmement blanche, elle avait le cou très fin, elle avait un profil un peu androgyne. Et donc, elle répondait parfaitement aux canons de beauté des années 30 de notre guerre en Europe. Et c'est probablement pour ça qu'aujourd'hui, elle est encore très connue.
Très bien.
Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit que Nefertiti, elle était représentée sur les murs d'un temple dans des chars. Mm-hmm. Des chars de guerre.
Ouais,
tirés par des chevaux.
Tu as tout à fait raison, Héloïse.
Mm-hmm. Bien. Merci beaucoup pour ces infos sur Nefertiti. On est dans l'Égypte antique aujourd'hui.
On a un peu voyagé.
Très bien. Merci à toutes les deux.
Merci, Mathieu.
De rien.
Ensemble sur Calad.
Allez, c'est là-dessus que va se terminer notre émission Ensemble sur Calad. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous la retrouverez sur notre site radio-calad.fr et en rediffusion demain matin à 10h. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous laisse en compagnie de Futuro Pelo et Neysamé avec un morceau qui s'appelle Nefertiti. Rendez-vous demain à 12h12. Ciao, ciao.
Je suis en mission, j'ai pas le temps, j'ai plus le temps pour les autres, c'est ça le temps.
Moi je suis en mission, j'ai pas le temps, j'ai plus le temps pour les autres, c'est ça le temps.
T'es pas très gentil, tu pourras être aimable, même si t'as pas envie, c'est quand même plus confortable. T'es pas très gentil, pour être aimable, même si t'as pas envie, c'est quand même plus confortable.
Oh, j'étais naze à l'école, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas bon à l'école, toi t'étais pas né. Oh, j'étais naze à l'école, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas bon à l'école, toi t'étais pas né.
Aimable. Même si t'as pas envie, c'est quand même plus confortable. T'es pas très gentil, tu pourrais être aimable. Même si t'as pas envie, c'est quand même plus confortable.
You've got to feel it, you've got to get up and get down. Get to feel